Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Ah oui, c'est pas la musique habituelle. Allez, Yassas, un petit salut à vous en grec, parce qu'aujourd'hui on parle ensemble de produits et de cuisine des belles îles grecques, mais aussi du continent en Grèce, hein, pas que les îles. Avec mes invités, on s'intéresse à cette gastronomie plurimillénaire, pas facile à dire, surtout en grec, qui continue à nous faire rêver tant elle nous ramène aux origines de notre civilisation et tant elle nous fait rêver de soleil et donc de vacances. Et donc, comme on est dimanche et que l'été arrive bientôt, à la fin du mois, ben nous, on fait déjà un petit tour du côté de la Grèce. Alors, comme invité ce matin, j'ai un grand chef de la cuisine grecque, c'est Andreas Mavromatis. Bonjour Andreas.
Bonjour Vincent.
Je suis content que vous soyez là.
Moi vraiment, aussi.
Ça me fait plaisir que vous veniez nous rejoindre pour parler de cette cuisine qu'on aime. Et en face de vous, eh bien, il y a Angelos Marantos, qui est en fait l'associé d'un autre homme, Alexandros Rallis, de Profil Grec. Profil Grec, vous êtes un sélectionneur, un importateur de produits ?
Et un producteur d'huile d'olive dans la région de Mani, dans le sud de Péloponnèse.
Dans le sud du Péloponnèse ?
À côté de Kalamata.
Ah bah d'accord. Si oui, alors c'est le sud-ouest.
C'est le sud-sud, vraiment sud.
D'accord. Vous êtes sud-sud, Kalamata, c'est entre deux doigts, hein,
exact,
c'est ça ?
Exact.
Hein, vous êtes en bas, en bas.
Exact.
Ok, génial. Et puis alors, j'ai demandé à quelqu'un que j'aime beaucoup, une amie à moi, Sandrine Dumas. Sandrine qui est réalisatrice, mais c'est aussi la fille de Jean-Louis et Réna Dumas, qui est donc une créatrice grecque, qui n'est plus de ce monde malheureusement, ma Sandrine. Mais Sandrine, elle est au téléphone parce que elle a cette appartenance aux deux pays. Elle est franco-grecque, voilà, et bercée par sa mère par la cuisine grecque, Sandrine.
Absolument, et je vais faire aussi un nom un peu grec. Ma mère s'appelait Réna Grégoriades.
C'est mieux.
Plus compliqué à dire que Dumas, c'est plus grec. Hein.
Non, mais ça fait plus sérieux que Dumas pour la cuisine grecque, c'est sûr.
Et Sandrine. Bercée par la cuisine grecque, bercée par les odeurs et par tant de souvenirs, oui.
Bon, eh ben écoutez, on va en parler ensemble. Et pour l'instant, je vais vous dérouler un petit peu ce qu'il y a dans notre panier de commission.
Sud Radio. Place du marché, c'est l'heure de la liste des commissions.
Bon, ben pour ce programme extrêmement grec, ce marché grec, on va tout d'abord s'intéresser aux origines de la cuisine grecque et notamment aux produits qui la composent et continuent en bonne partie à la composer. Alors, avec les nombreux témoignages de nos invités présents ou au téléphone, puis on passera un peu en revue ce qu'on connaît, nous, des produits grecs, c'est-à-dire pas grand-chose, et de la cuisine du pays des dieux. Des dieux et des marins quand même, hein, c'est important en Grèce. Ensuite, nous intéresserons à l'actualité de cette gastronomie et aux beaux produits qui gagnent aujourd'hui le marché et le cœur des Français. Le marché, certes, hein, nous on les compte par centaines ces produits, enfin surtout ceux qui sont des spécialistes, mais le cœur, eh bien, ça fait longtemps qu'il est gagné. Et nous tâcherons de comprendre quelles évolutions on peut attendre dans les plats et les recettes de ce beau pays, surtout ici en France. Allez, un grand air de mer, de soleil, de vacances souffle aujourd'hui sur Sud Radio, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio.
Alors d'abord, on s'intéresse aux origines de cette cuisine. Alors, moi, je suis remonté un petit peu dans l'histoire. Angelos, je fais référence à un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine à Paris. C'est le banquet grec.
Exactement.
Alors, c'est quoi le banquet grec ? Dites-moi en quelques mots.
L'idée, c'est de faire présenter au public français, voire parisien, la gastronomie grecque. Par les produits lesquels on défend nous, on représente, avec aussi les vins grecs
c'est important,
très grande qualité, c'est une autre société, la société Oenos qui amène aussi, et on travaille tous les deux avec la restauration parisienne et française.
Ok, Angelos Marantos, je fais référence à ce banquet grec, parce qu'évidemment tout le monde a dans l'idée ce banquet de Platon, hein, qui est un ouvrage majeur, qui remonte à 400 ans avant Jésus-Christ, hein, donc moins 400, Plus exactement, l'événement qui a présidé à la création de ce livre, c'est un vrai banquet qui a eu lieu, semble-t-il, hein, parce que moi je ne suis pas historien, mais vers 416 avant Jésus-Christ. Exact. Et là, on se retrouve en fait, ce banquet de Platon, il est autour d'un événement qui a eu lieu avec un poète de l'époque, Agathon. Et Agathon gagne les Dionysies, qui sont un concours en fait de pièces de théâtre, de poésie. Il gagne le premier prix alors que c'est sa première, tragédie. Et donc il donne un grand banquet. Et à ce grand banquet sont présents beaucoup de philosophes et de poètes, enfin en tout cas l'intelligentsia grecque de l'époque, dont Socrate, bien entendu. Et alors, je me suis dit, moi qui ne m'occupe en définitive que de ce qu'on se met dans le ventre, hein, en règle générale, on s'aperçoit que là, ce banquet, c'est un banquet de philosophes, de gens qui dissertent sur l'amour, parce que c'est l'objet de ce banquet, mais on ne parle pas beaucoup de cuisine. Hein. Non mais, je veux dire... Andreas Madromatis, dans la Grèce ancienne, on parle beaucoup de boissons, c'est-à-dire que c'est un banquet où on boit. D'ailleurs, ils boivent tous, ils sont tous ivres, et d'ailleurs, ça aide certainement à l'éloquence. Donc, les vins grecs sont déjà cités, mais on ne dit rien sur la cuisine. Pourquoi ? Parce que c'est trop simple à cette époque-là ?
Non, on considérait que c'est tout à fait naturel d'avoir la cuisine sur un banquet grec. Et surtout, on a eu les fêtes dionysiaques. Hein. D'ailleurs, oui, c'est comme ça, on boit beaucoup. Vous savez que la Grèce est un des premiers pays au monde qui a fait du vin. Si vous allez à Chypre, sur les mosaïques de Paphos...
Alors vous êtes cypriote, oui. Hein, donc vous parlez de votre région. Là.
Non, mais c'est la même chose. Grèce, Chypre, moi, c'est... nous sommes Hélènes. Les Hélènes, la cuisine hélène, la cuisine hellénique, c'est la même chose. Donc vous voyez des inscriptions, les premiers qui ont fait du vin. Alors, voilà. Donc, je pense que la cuisine, ça devrait faire partie du banquet grec. Et le banquet grec, c'est quelque chose qui est fêté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait d'autres soucis, des préoccupations sur l'agora, de philosopher, d'expliquer, de parler aux gens. Mais en même temps, on considérait que sans manger, une discussion n'est pas possible.
Et sans boire.
Et surtout, sans avoir un accord final, il doit avoir à boire et à manger.
Donc c'est un peu la convivialité, la naissance de la convivialité
Absolument.
En tout cas.
On ne parlait pas des recettes à l'époque, hein, on parlait des produits surtout.
C'est ça.
On parlait des produits. Des produits.
La commensalité. Oui, parce qu'on mange du pain avec de l'huile d'olive, quelques olives, des fromages simples.
Absolument. C'était vraiment des produits de base qui étaient des produits de qualité. Mmh. D'ailleurs, les olives, les pains et les céréales, c'est les premiers paniers du grec. Mmh. Et vous voyez, après, on a eu des fabrications. Là, après, on a eu des produits du terroir. Mais après, on a eu des transformations des produits.
Sandrine Dumas, vous écoutez tout ça, et vous, votre enfance dans la cuisine grecque, c'est aussi à travers des produits ?
C'est aussi à travers des produits, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, je me dis que c'est quand même très français de parler de nourriture en mangeant, mais qu'en Grèce, comme tradition du banquet, les Grecs ont gardé jusqu'à aujourd'hui cette aptitude à aller très facilement au restaurant. C'est pas du tout quelque chose de spécial d'aller au resto. Oui. Et de manger des grandes tablées dans des tavernes, ça existe toujours. Et moi, j'ai passé mon enfance, quand on allait à Égine et que j'étais petite, on allait retrouver des amis de mes parents, on courait autour des tables, il y avait autant d'adultes que d'enfants, c'était bruyant, c'était mêlé, la cuisine était visible. Dans ces grandes casseroles, on allait choisir dans la cuisine ce qu'on voulait en pointant du doigt quand on pouvait pas le dire.
Alors, attendez, excusez-moi, mais Égine, c'est une île hein, qui est en face d'Athènes, on peut dire, en quelque sorte, une des plus proches d'Athènes. C'est le berceau de votre famille maternelle, c'est ça ?
C'est là où on a passé notre
En tout cas, oui, c'est votre lieu de villégiature.
Donc c'est notre lieu, c'est notre ancrage familial.
D'accord. Et à Égine, d'ailleurs, c'est dommage que vous ne soyez pas avec nous, parce que Angelos m'a apporté des pistaches d'Égine, moi, dont je raffole. Je m'étais dit, on lui fera goûter.
C'est la merveille, c'est la merveille, c'est les meilleurs pistaches au monde, les pistaches d'Égine.
Ça m'aurait étonné que vous ne disiez pas ça.
Alors, et le bonheur de la pistache, quand on la prend l'été et qu'elle est verte, qu'elle a cette couleur d'aimante qu'on voit dans les glaces, mais quand on la mange crue, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a un pâtissier à Égine qui vient de faire une glace à la pistache salée. C'est une tuerie.
Ah, c'est pas mal,
merci
ça.
C'est forcément
pour l'enfant.
Et forcément grillé, bien sûr. Hein. C'est un peu comme un praliné de pistache, en quelque sorte, hein, la pâte de pistache. Écoutez, on va pas commencer à parler de produits tout de suite, parce que déjà, j'entends la petite musique qui nous dit qu'arrive la publicité. Écoutez, on va fourbir nos armes, hein, comme font les guerriers grecs, penser à tous ces produits merveilleux qu'on met sur notre table, et on se retrouve dans quelques...
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Ah oui... Eh oui, ça c'est, alors ça c'est le tube éternel, hein, Milice et Mousse, c'est vraiment. Non, mais c'est aussi connu que je sais pas, les plus grands airs traditionnel français, donc voilà. Mais ça nous met dans l'ambiance, cette ambiance grecque qui est la nôtre aujourd'hui, puisqu'on parle de cuisine grecque, de gastronomie grecque et de beaux produits avec nos invités, Andreas Mavromatis, chef étoilé ici à Paris, Agelos Marantos, qui est importateur, sélectionneur de beaux produits et un des organisateurs du banquet grec dimanche prochain, le 9, hein, ici même à Paris. Et au téléphone, Sandrine Dumas qui a commencé à nous allécher avec ses pistaches d'Égine. Hein, bah oui, Sandrine, parce que votre mère est grecque et que donc vous avez ses origines en vous, quoi. Vous portez ça. Mais hors micro, eh bien, Andreas me disait moi aussi, je fais de la glace à la pistache d'Égine dans mon resto.
C'est extraordinaire parce que nous, on a fait ce qui est. Est-ce qu'elle aime beaucoup Sandrine? On a fait un yaourt grec avec des pistaches salées. Alors là, c'est extraordinaire.
Ah,
et miel. Ouais, Sandrine, on a cherché miel, yaourt et pistaches.
Mémélie, hein,
on l'a fait en glace.
Ça a l'air succulent.
C'est magnifique. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas l'habitude d'aller en Grèce, grosso modo, le yaourt au miel, là aussi, c'est le dessert basique. Hein, ouais. On est d'accord. Enfin, je veux dire, tout le monde mange du yaourt avec du miel.
Ouais, c'est tellement bon.
Mais le miel, c'est une merveille.
D'ailleurs, je me permets de vous recommander le yaourt de la famille Mavromatis, de la marque Mavromatis, que je le trouve formidable.
Ça, c'est très gentil de venant de vous, Agelos. Hein,
c'est la vérité.
De faire des fleurs aux Mavromatis. Alors, justement, parlons-en des Mavromatis. Alors, les Mavromatis, hein, trois frères, qui ont, en fait, on va dire... avant tout le monde, imposer un peu la gastronomie grecque ici en France. Vous êtes venu, Andreas, vous n'étiez pas cuisinier, d'ailleurs.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que vous faisiez, rappelez-moi.
Moi, je suis arrivé dans les années 80, 77 exactement, vous étudiez la psychologie et sociologie.
Donc, oui, c'était pas oui.
Comme tous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en France pour faire des études. C'était mon objectif. En fait.
Et là, vous avez déjà senti l'appétence des Français pour la cuisine grecque ?
Enfin, j'ai senti surtout l'engouement des Français pour la culture grecque, pour la cuisine grecque, et l'amour qu'ils portaient pour cette cuisine. Quand j'ai travaillé à l'époque avec mes frères, on travaillait pour financer nos études.
Bien sûr. Mais alors, vous faisiez la plonge, le commis, vous alliez faire le marché.
Oui, bien sûr, on va faire la plonge, le commis, comme tout le monde. Hein.
Tout le monde en restauration.
On n'est pas une exception. Mais je pense que quand on arrive à France, il faut travailler pour payer ses études, pour la plupart. Et c'est ce qu'on a fait. Après, ça a devenu une passion, ça a devenu quelque chose de... Enfin, ça partait aussi d'un sentiment de fierté, de dire, la cuisine grecque, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas les petits Grecs du coin, ce qui en époque j'entendais beaucoup, et ça me dérangeait énormément, et j'ai dit non, la cuisine grecque c'est autre chose, c'est cette cuisine millénaire, c'est notre cuisine de nos grands-mères qui nous ont transmis, qui mérite mieux que ça, et surtout nos vignerons, nos agriculteurs, nos éleveurs, ils méritent mieux que ça, parce que franchement aujourd'hui, si l'engrais pourrait se trouver dans une meilleure situation économique si on avait des meilleurs restaurants grecs à l'étranger.
Oui, puis ça, si vous aviez développé une agriculture vers l'exportation.
Mais évidemment, regardez les Italiens, les Espagnols, ce qu'ils ont fait. Nous, franchement, j'ai dit, on n'a pas fait le job. Moi, j'ai depuis 38 ans avec mes frères, je n'ai même pas avec ça. J'ai dit, on était les premiers à faire de la fête en grec à Paris, les huiles d'olive, et tout ça. Donc, ça fait 38 ans. On s'est bat avec ça. Et plus je vais en Grèce, plus je me suis passionné par ces terroirs, par ces artisans de l'agriculture grecque. J'étais à Saint-Laurent il y a 3 jours. C'est juste magnifique, quoi. C'est extraordinaire. C'est un devoir pour nous, les Grecs. Et puis, on a tellement un terroir un terrain en France extraordinaire. Les pays qui attendent la Grèce, c'est la France, quoi.
C'est vrai qu'il y a une amitié incroyable.
Il y a une amitié, une convivialité d'amitié entre la Grèce et la France. Il y a une histoire d'amour qui c'est incroyable. Donc on a tout à France pour faire, et puis la France nous donne tout pour réussir. Moi, je dis, je suis ravi d'être là, je suis ravi depuis 30 ans d'être vrai avec mes frères pour monter la cuisine grecque de jusqu'à l'étoile, que à l'époque, enfin, on n'imaginait pas.
Mais c'était mérité.
Mais c'était surtout, c'était le travail qui a mené petit à petit à ces résultats.
Andreas, vous parliez à l'instant de feta. Là, il y a un vrai sujet. En ce moment, en France, on se bat pour notre camembert AOP de Normandie, au lait cru, etc. Rappelons que le premier producteur de feta en Europe, c'est le Danemark, hein, si c'est toujours le cas. Et c'est un vrai combat, Angelos, pour défendre la feta grecque.
Écoutez, heureusement, on ne peut plus l'appeler feta, comme étant de la feta, et c'est protégé.
Alors déjà, en France, on a fait notre amende honorable. La feta française, qui est en fait le résidu du Roquefort, hein, puisque c'est fabriqué dans le Causse. Tout ce qu'on ne mettait pas comme lait de brebis dans le Roquefort allait en feta. Maintenant, ça s'appelle nom de marque.
Voilà, fromage blanc de brebis ou quelque chose comme ça, qui c'est très important. Parce que pour que ça s'appelle feta, il y a deux conditions. La première, c'est que ça soit produit sur le sol grec.
Oui.
Et deuxièmement, qu'il y aurait jusqu'à 70% du lait de brebis. Et jusqu'à 30% maximum, selon la recette, lait de chèvre.
Oui, parce que c'est sûr qu'au Danemark, c'était pure vache. Hein. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de brebis au Danemark.
Évidemment. Hein, évidemment.
Voilà. Ouais. Hein. Donc, c'est un fromage qui retrouve ses lettres de noblesse. Alors, moi, je vous l'avoue, je sais que ça fait un peu plouc, hein, mais ce n'est pas grave. J'adore la salade grecque. Pour moi, qui est quand même une expression simple, hein, de crudité, mais quand les légumes sont beaux et qu'on a une belle feta, c'est divin, avec juste un filet d'huile d'olive, un petit peu d'origan dessus ou de marjolaine. Moi, je trouve que c'est génial. Mais ça, c'est à condition d'avoir une bonne feta. Alors, ça se trouve aujourd'hui, Angelos ?
Ça se trouve. Moi, je suis à Paris en travaillant avec Profil Grec, avec Alexandros, depuis 2013. Je me souviens que dans les supermarchés, il y en avait peut-être une référence. Et aujourd'hui, il y en a trois, il y en a quatre.
Ouais.
J'ai osé de dire qu'on vit la mozzarellisation de la feta. Aujourd'hui,
ça y est.
Ça veut dire qu'il y a un produit laitier étranger, comme était la mozzarella jusqu'à aujourd'hui, très répandue. Mmh. On voit que la feta aussi,
Attends, y a une qualité, elle remonte. Et on exact. Recherche la qualité. Andreas, la feta, il faut dire, attendez, je voulais juste, pour ceux qui n'ont jamais goûté, hein, c'est particulier parce que c'est un fromage en saumure, qui est à la fois salé et un peu acide. Hein, c'est son goût particulier, du coup assez digeste. Mais est-ce qu'on... Vous, alors évidemment, je suppose qu'entre 10 feta, vous faites parfaitement la différence.
Alors, je suis un berkter à tout ça pour l'AOP grec. À l'époque, il y avait le Danemark, la France, l'Allemagne et la Hollande qui s'opposaient
évidemment
à l'appeler feta. Alors, je suis intervenu à plusieurs émissions télé, France D, LCI, pour défendre les produits, M6 Capital, pour défendre les produits grecs. J'ai fait beaucoup de recettes, et on a gagné une fois à l'AOP, ça a été contesté par la France, l'Allemagne, la Hollande et le Danemark. Après, ils sont repartis en Grèce des inspecteurs pour vérifier pourquoi il faut l'appeler, pourquoi en Grèce il faut qu'il ait ces produits-là. Tout simplement, on a constaté que les Grecs sont les plus gros consommateurs de ces produits au monde.
Mmh.
Et à l'origine, les Danois disaient « Oui, mais feta, ce n'est pas grec, l'eau n'est pas grec. » Moi, j'ai fait des recherches historiques, il y a un peu de vrai là-dedans, mais surtout, la recette est grecque, et surtout, aujourd'hui, la consommation. Les Grecs, ils mangent 20-25 kilos par an, je crois, si je ne me trompe pas, depuis ça a évolué, de ces produits-là.
C'est plus que le compté chez nous. Hein.
Absolument. On a plus de, moi, j'ai répertorié à peu près 10 à 50 recettes avec la feta. 10 à 50 recettes. Parce qu'on l'a fait frais, grillé, séché. Moi, je l'ai fait au moins de 10 façons, la feta, dans les restaurants. Et ce qui lui a donné cette légitimité, ça s'appelle feta. En plus, la feta, pour dire quelque chose qu'il a dit Angelos tout à l'heure, ce n'est pas dans tous les pays. C'est surtout une partie, c'est 45 000 km².
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une région de la feta en Grèce ?
Bien sûr, il a. Il va aider des brebis et des chèvres, enfin, il va aider une race des brebis et des chèvres, il y a une petite région, Crète. La Crète ne peut pas faire la feta. Dans les Cyclades, on ne peut pas faire la feta. Ce n'est pas possible.
C'est sur le continent.
C'est dans les pires, de la Yanina.
Dans le continent. Cette
alors, les pires, on va dire que c'est en haut, à gauche, c'est à l'ouest, au nord-ouest.
Au nord-ouest,
hein, c'est ça.
Exact. Donc, c'est là où j'ai fait une émission, pour ne pas dire l'émission avec qui j'ai travaillé, parce qu'ici, on ne peut pas parler peut-être. J'ai fait une semaine, j'ai vécu avec les producteurs, avec la société avec qui je travaille, sur ces fromages-là. Et ça a été approuvé par les meilleurs ouvriers de France, fromagers. La meilleure feta du monde, c'est la feta des pires. Bon,
chacun, les pires, voilà.
Chacun ses goûts.
Ouais. Chacun ses goûts.
C'est mais, on peut dire que c'est en face de Corfou, mais, les pires.
De toute façon,
ouais, c'est ça, c'est hein, ça, ouais.
Oui, bah, de toute façon, Angelos, cette feta, elle est pire ou elle est à côté, mais elle est la même région. Du oui. moment que la fabrique de la même région, c'est parfait, tu vois, c'est
Angelos.
Oui, là, je ne suis pas d'accord. Après,
ouais,
je me suis pas renseigné au niveau des règles et tout ça, mais il me semble que dans tout le continent, on peut l'appeler feta, non. Mais je ne suis pas totalement sûr.
Non, c'est interdit, parce que moi, je dis, moi, j'ai travaillé à l'époque avec le ministère grec, avec... Donc, on ne peut pas, la feta, c'est 45 000 km² et ça désigne une région. Sinon, c'est facile d'appeler, tu sais.
Excusez-moi, messieurs,
fromage
mais...
fromage blanc, on l'appelle.
Andreas Angelos, on rentre dans un débat d'experts. Et franchement, pour ceux qui nous écoutent chez nous, ça, c'est un peu obscur. Mais ça donne l'idée, en tout cas, qu'il y a autant de combats pour la feta en Grèce que pour le camembert chez nous. Donc ça rassure, en quelque sorte. Hein, vous êtes des défenseurs de votre fromage national.
Le camembert, on l'a protégé, il y a pas longtemps, le camembert de Normandie.
Bon, bah, alors, voilà, mais voilà, la feta de l'Épire, ça va peut-être être pire encore. Sandrine, comment est-ce que vous l'aimez, vous, la feta?
Moi, je l'aime en salade. Oh, je l'aime grillée aussi, mais surtout quand on va dans un magasin pour en acheter, il y a plusieurs fêtas. Il y a de la feta douce, la feta, etc. Donc les premières.
Ah oui, on peut l'affiner aussi un peu plus. On peut.
Oui. Elle se présente de différentes façons. Moi, j'adore la feta surtout, juste avec un peu d'origan et d'huile d'olive dessus.
Bah ouais. C'est
pour ça qu'elle est la meilleure.
Peut-être une olive aussi, une petite olive noire avec.
Pas forcément.
Ça peut l'accompagner.
Comment ça peut l'accompagner?
Ça peut l'accompagner. Ça peut l'accompagner.
Et est-ce que attendez, j'ai juste 10 secondes pour vous poser une question. Et puis on y reviendra. Est-ce qu'en Grèce, on trouve du bon pain?
Oh, mais ils font du pain merveilleux.
Ah, bah tiens, ça m'aurait étonné, Sandrine.
Et ça se coupe toujours à la main. Bonne question. C'est merveilleux.
Ah, le pain se rond en Grèce.
Oui, hein, on te l'apporte très tranché, mais tu termines de le trancher toi en le rompant à la main. C'est merveilleux.
Ah, ouais, c'est merveilleux. Ah, le pain grillé nous dit. Andreas Mavrobatis. Messieurs, vous nous donnez faim juste avant la pub, c'est pas sympa, hein. Et mademoiselle, de l'aller tremper, parce que j'ai une petite Stella qui est en face, là, une jeune grecque qui travaille ici. Eh bien, je vais vous dire, elle salive. En vous écoutant, l'idée juste du pain, de l'huile d'olive et d'un petit peu de feta,
aussi, hein.
Ça, c'est bien grec. On se retrouve tout de suite après la pub.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, retour, place du marché, où on déguste, hélas. C'est un jeu de mots, hein. On déguste, hélas. Hélas, c'est le nom de la Grèce en grec.
Exact, ah, voilà. Exact.
Non, hélas. Hélas, avec des L, hélas.
Oui, hélas, bien sûr. Écoutez, ça cause, ça palabre, ça se dispute un peu pendant la pub aussi, mais c'est normal. C'est un peu un banquet de Platon à la nouvelle mode ici que l'on tient ce matin.
Ça discute pas.
Mais ça discute.
C'est ça.
Non, mais disputer dans le bon sens, hein, où chacun fait valoir ses arguments. On parlait de la feta juste avant la pause. Et là, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet éminemment grec, l'huile d'olive. Parce que, évidemment, toute la Méditerranée est baignée par le jus des olives, mais l'huile d'olive grecque, elle a quelque chose de particulier. C'est peut-être l'huile originelle, Angelos ?
Ça dépend de la région et de la variété. Et donc...
Mais en tout cas, on peut dire qu'elle est là depuis des millénaires.
Voilà.
Et que avec le vin, ce sont les deux grands produits grecs de la civilisation
depuis toujours,
grecque.
Depuis toujours.
Alors, Sandrine Dumas qui est avec nous de mère grecque. Sandrine Dumas qui est réalisatrice. Sandrine, vous entendez ça? On peut faire frire à l'huile d'olive. Je sais qu'il y a une recette que vous aimez bien, une friture à l'huile d'olive.
Les frites grecques sont les meilleures au monde. On parle toujours des frites belges, mais les frites grecques, comme tout le monde fait ses pas, tous les magasins, les restaurants font vraiment les frites. C'est des vraies frites, elles sont divines.
Mais carrément,
est-ce qu'ils sont faits avec la bonne huile, avec la caloladi?
Caloladi, voilà.
Et pour revenir sur l'huile, ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'en fait, beaucoup de gens continuent à faire leur propre huile en Grèce. Il suffit d'avoir un champ, et après ils vont et ils la font.
Mais c'est votre cas, non, Aïgine?
Et nous, on a notre huile. C'est mon grand luxe, c'est que j'utilise à Paris. On fait venir notre huile et on a toute l'année, on consomme notre huile d'olive qui est...
Andreas Mavromatis, ça, dans cette culture agraire un peu primitive, évidemment, chacun faisait son huile et son vin. On avait quelques pieds de vigne et quelques oliviers et on se nourrissait comme ça.
Bon, moi, les expériences, nous, on est paysans, hein, on est une montagne, on est à 900 mètres d'altitude. On faisait notre huile d'olive, ma mère elle faisait l'huile d'olive, on faisait nos charcuteries, on élevait des cochons, on élevait des chèvres. Moi, mon goût, le goût que j'ai, c'est le goût originel, hein, des l'arbre, les fruits qui sont sous l'arbre. Et c'est ça c'est vrai que depuis la crise, Sandrine, c'est vrai, ça a accentué aussi. Les Grecs sont retournés cultiver leurs terres. Là où ils avaient trois, parce que vous savez comment on appelle, nous, on n'appelle pas l'olivier, on dit racine d'olivier. Parce qu'on dit riza, c'est racine, ça veut dire.
Ce qui a donné
rhizome. C'est quelque chose, voilà, quelque chose qui est profond, la racine. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'en Grèce, à Chypre surtout, on peut avoir une racine dans la parcelle de quelqu'un d'autre.
Ah oui,
c'est quand même extraordinaire.
L'arbre peut naître à côté.
L'arbre peut vous appartenir, mais pas la terre.
Bon, ouais, c'est
ça a fait, c'est pas Sandri si vous êtes au courant, mais ça a fait on faisait un B quand on avait un problème, on dit tiens, cette racine, je vais l'offrir à un tel saint, un tel à la Vierge. Ça. On dit tiens, la racine reste à l'église et puis la parcelle reste au propriétaire.
Oui, mais on peut.
Je connais pas cette histoire, mais symboliquement, qu'un chypriote raconte ça, c'est magnifique.
Ils sont malins, ces Grecs, quand même, Sandrine, hein, parce que je peux vous dire un truc. L'idée qu'on peut offrir son olivier à Dieu, mais qu'on garde bien l'huile d'olive en définitive, ça, c'est très malin, ça.
Non, mais c'est incroyable. Et puis, le propriétaire de la parcelle peut vous autoriser à mettre pour aller cueillir vos oliviers et partir. C'est extraordinaire, ça c'est...
Ah, j'adore cette idée. Formidable.
Mais l'olivier est un arbre très généreux et qui vit longtemps.
C'est
donc en plus,
c'est
on a
arbre,
la chance de très voir des arbres très anciens et c'est très émouvant parce qu'il y a une histoire qui se raconte en le regardant, simplement.
Absolument.
Alors, Andreas Mavromatis, on l'a dit, votre restaurant parisien est étoilé. Hein. Vous avez également cette société de traiteurs que tout le monde connaît, en tout cas ici, parce que c'est le grand nom du traiteur grec avec vos frères. Mais ce restaurant étoilé, c'est particulier. Comment est-ce qu'à partir de produits aussi simples que l'huile d'olive, puis j'ai regardé votre carte en plus, hein, généralement c'est sous le nom des produits que vous sortez des plats.
Oui.
Comment est-ce qu'on arrive à la gastronomie en partant d'une telle simplicité, d'une telle évidence, j'ai envie de dire?
Vous savez, comme dit un grand chef, c'est très difficile à faire simple, hein, comme il disait Paul Bocuse. Mais je vous dis, franchement, on n'a pas besoin de la truffe ou d'un grand foie gras pour faire la belle cuisine. Il suffit de choisir de très bons produits, d'une grande fraîcheur. Et respecter les produits, la cuisson, la température, et offrir les meilleurs tout au long grec. Il faut savoir que nous, on emporte tous les produits qui nous sont nécessaires pour notre cuisine, pour nos boutiques, pour notre restaurant gastronomique.
Enfin,
aussi.
Tout ce qu'on trouve, hein, je donne vos entrées, par exemple. Aubergine confite, autun sauvage, légumes crus, etc. Poulpe grillée, pagre, asperges blanches, voilà. Mais si je regarde les viandes, en revanche, pigeon de Vendée, agneau de lait de Lozère, quasi de veau du Limousin.
Mais quel plaisir immense d'être en France, d'avoir ces produits énormes qu'on a en France, et associer, pour moi, ce que j'ai fait, c'est prendre les goûts de nos grand-mères, de nos ancêtres, et puis fermer les yeux, dire, ça c'est grec, ouvre les yeux,
c'est de Lozère.
C'est une autre présentation, c'est une harmonie dans l'assiette, c'est une beauté dans l'assiette, mais en même temps, qu'est-ce que nous demandent nos clients? Qu'est-ce que nous demandent aujourd'hui nos Français? C'est nous dire, voilà, est-ce que c'est la cuisine grecque? Oui, quand je fais un stifado, c'est une sauce avec oignon, vin rouge et vinaigre. Voilà, on ouvre les yeux, mais c'est ça. Sauf que moi, je prends les goûts, ce qui reste dans la marmite à la fin des cuissons. Parce qu'il faut savoir que la cuisine grecque, c'est une cuisine de maman, c'est une cuisine de grand-mère. Moi, j'ai cuisiné cette cuisine autant que je connais, parce que je ne connais pas toute la cuisine grecque. Il faut dire qu'elle est aussi vaste et variée géographiquement.
Et régionale aussi.
Régionale. La Grèce, vous savez, c'est les îles, c'est les nord, c'est les sud. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, j'essaie surtout de prendre ses goûts et de présenter d'une façon différente. Mais quelle chance d'avoir des pigeons de Vendée, quelle chance d'avoir des agneaux de Lozère. Je n'ai pas fini en Grèce. Alors, les pigeons ou les poissons, parce que la France, ils nous offrent tout pour réussir. Sauf que là, franchement, j'ai dit, Indemne des viandes, non, je n'ai pas importé d'ingrès.
D'accord.
Je suis désolé. Non.
Oui, mais alors...
Je prends du français, je prends du poisson français parce qu'on a la fraîcheur, parce que je vais à la rencontre de nos producteurs, de nos éleveurs, et puis je prends. Qu'est-ce qu'ils nous demandent, nos clients? Nous, qu'est-ce qu'on veut, la famille? On veut offrir les meilleurs. Prendre la très bonne viande et de lui donner vraiment ses goûts grecs. C'est ce qu'on veut.
Mmh. Voilà. Oui, mais si on regarde...
En Grèce, il n'y a pas assez de viande, pour vous dire. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas chercher en Grèce.
Andréa, si on regarde la carte, bon, on voit effectivement, vous mêlez hein, des produits de chez nous et des produits
c'est,
grecs.
C'est avec pour fierté,
on l'a bien
fait.
Compris. Ouais. Mais l'image qu'ont les Français de la cuisine grecque, c'est très, très réducteur.
Oui,
je veux
dire, oui.
C'est comme si on disait pour les Italiens, c'est la pizza et les spaghettis.
C'est vrai.
On dit ici, c'est la moussaka et les souvlaki.
C'est vrai.
Voilà. Et
c'est
en
vrai,
fait,
mais
c'est
la
vaste.
Et en plus, c'est pas seulement ça qui est, au-delà de ça, c'est que ça doit être pas cher et d'une énorme quantité pour que ça soit grec. C'était ça l'image jusqu'à
ah oui,
moi, je pense qu'il faut s'apprendre à nous.
Si je peux vous parler de notre côté,
oui, bien sûr.
Andreas, il le voit de son côté de la restauration. Nous, comme
fournisseurs... Vous êtes fournisseur des restaurateurs.
Exact, comme fournisseur, notre débat, c'était de faire valoir les produits d'une qualité extraordinaire, mais quand même de et aussi casser un peu cette image de la Grèce, de la rétina pas chère à 2 euros le 2 litres, de la feta aussi pas chère, de l'huile d'olive, c'est de sortir un peu de ce lot.
De rechercher la qualité.
De rechercher la qualité et de faire valoir auprès des vrais connaisseurs, comme qu'il y en a beaucoup des restaurants et des clients à Paris. Pourtant, on a eu la chance parce que, de nouveau, on doit dire que la France et Paris est peut-être une place unique en Europe, au moins, pour son amour, pour le goût, pour
et
le
oui.
vrai goût.
Oui, et puis un intérêt pour les produits, justement, c'est si on veut mettre en avant des produits de qualité, on peut le faire ici.
Exact.
Il y a grosso modo, alors on peut le faire aussi à Milan, hein, on s'en doute, ou à Tokyo. Mais ici, il y a une ouverture peut-être.
Il y a une ouverture. Vous, les Français, vous adorez le bon goût. Vous peut-être vous commencez à connaître ça de votre premier âge.
Oui, c'est vrai qu'on est plutôt bien élevé. Enfin, pas tout le monde, hein, mais je vous rassure. Mais c'est vrai qu'il y a un éveil, en tout cas, au goût,
ça.
Qui est peut-être plus important que
ailleurs. Et pour nous, c'était une chance. Alors, on s'est dit souvent avec Alexandros, on a cette discussion que si on allait commencer, on allait commencer cette expérience à une autre capitale. Peut-être que ça n'aurait pas été si gagnant-gagnant à la fin.
Andreas, ça fait combien de temps qu'on ne vous demande plus de moussaka dans votre restaurant? Non, parce que, soyons clairs...
Non, la moussaka, j'adore, on l'a fait, la moussaka.
Vous avez la partie traiteur, quand même, qui traite tous ces plats grecs qu'on connaît. Et vous pouvez vous adonner à plus de création dans ce restaurant gastronomique.
Absolument. C'est vrai qu'on a aujourd'hui le restaurant étoilé, qui offre une cuisine qui est assez différente, qui est assez créative, qui est ce qu'on a essayé de faire, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, comme Angelo aussi l'a dit, c'est que la cuisine grecque, ce n'est pas que du souvlaki et du tzatziki. Mais ce que je veux dire par là, si les Français aujourd'hui ne connaissent pas encore très bien la cuisine grecque, ce n'est pas la faute des Français, c'est la faute des Grecs, qu'on n'a pas fait les jobs. Les jobs, on ne l'a pas fait depuis des années. Est-ce qu'ils ont fait les Italiens, les Espagnols, peut-être d'autres pays aussi, les Asiatiques? Nous, on est en train de les faire. Maintenant, depuis quelques années, comme ce qu'il fait Angelos, comme d'autres garçons font à Paris, je suis heureux qu'il y a d'autres gens qui travaillent la cuisine grecque, qui veulent valoriser la cuisine grecque. Alors nous, dans nos restaurants, donc on a 4 restaurants bistrot et on a un restaurant étoilé, et 10 boutiques, Paris, Nice, Marseille et Strasbourg, pour faire la promotion des produits grecs. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est...
Si vous ne connaissez pas encore la cuisine grecque, on vous en parle ici. En fait, ceux qui la connaissent le mieux, c'est ceux qui sont allés en Grèce, hein, quand même. Heureusement qu'il y a
comme
le tourisme.
Hein, comme vous.
Oui, bien sûr. D'ailleurs. Moi, j'adore la Grèce, mais beaucoup de Français adorent la Grèce, et pas que les Français, heureusement pour les Grecs. Et si vous ne connaissez pas du tout, du coup, ben, on a encore toute une belle fin d'émission. On se retrouve tout de suite dans...
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, on revient aux accents de Millicemus, ce tube de toujours grec. Mais ça sonne avec les bouzoukis, etc. Ça sonne grec. Moi, j'en avais besoin un peu pour être dans l'ambiance. Quoiqu'avec nos invités, avec Andreas Mavromatis du restaurant éponyme étoilé parisien, avec sa cuisine grecque créative, avec Angelos Marantos, profil grec, hein, qui fait du sourcing et de la distribution de produits vers la restauration, mais aussi vers le grand public, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'amateurs. Et je vais remercier tout de suite Sandrine Dumas, qui est française mais franco-grecque de culture par sa mère, de nous avoir accompagnés avec quelques-uns de ses souvenirs et de ses envies. Merci Sandrine de nous avoir accompagnés ce matin.
Et merci de parler de la Grèce et de la bonne nourriture grecque comme ça, c'est un plaisir à entendre.
Allez, je vous laisse préparer votre déjeuner du dimanche avec peut-être quelques spécialités, peut-être des dolmas par exemple.
Allez, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Un coup de fil en chasse un autre, j'ai demandé à un chef d'être avec nous ce matin. Alors, il n'est pas grec du tout, c'est Juan Arbeláez. Bonjour Juan.
Comment ça va?
Ah ben ça va plutôt bien. Alors on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il invite un Colombien dans une émission sur la Grèce? Eh ben parce que Juan Arbeláez, qui est médiatique, donc vous le voyez certainement à la télévision en ce moment, mais surtout, voilà, qui a plusieurs affaires à Paris, eh bien il travaille avec une marque qui s'appelle Kallios, qui est aussi une marque à la base d'huile d'olive, hein, et qui a un peu décliné, hein, c'est ça, hein?
Exact.
Et alors, Juan, il paraît que vous avez même été récolter les olives à Kalamata, là, dans le Péloponnèse, vous-même.
Exactement, pour vous raconter, en fait, l'histoire de pourquoi un Colombien finit et tombe complètement amoureux de la Grèce. C'est que une Coupe du Monde, la Grèce et la Colombie s'affrontent. Il s'avère que la Colombie met 3-0 à la Grèce et les Grecs avec lesquels j'ai travaillé
ont dû m'inviter en chance.
Une petite pique au passage pour nos amis grecs en studio, oui.
C'est un cadeau. Et du coup, ils ont été obligés de m'inviter en Grèce pour les vacances. Ouais. J'ai été faire également une première récolte au mois de novembre pour la troisième semaine. Ouais. Je suis tombé fou amoureux du pays. De la cuisine du village. Je suis tombé complètement fou amoureux de cette yaya magnifique. Si tu veux. La yaya, c'est la mamie. Hein.
C'est la mamie. Hein, c'est d'ailleurs le nom de vos restaurants en joint venture, en partenariat avec les frères Chantzios.
Exactement. Ça a été la continuité, en fait, parce que j'ai fait donc ma récolte. J'ai commencé à signer une bouteille avec les frères Chantzios, donc pour la marque Kallios. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que la Grèce était tellement riche au niveau des produits, tellement riche au niveau des recettes, au niveau du partage et de la convivialité. On voulait le mettre à l'honneur à Paris et on a ouvert Yaya.
Donc, vous voyez,
ça fait maintenant 5 ans que ça dure. On a ouvert maintenant 2 Yaya. Il y en a un à Saint-Ouen et le deuxième dans le
Yaya. Yaya.
Ouais, exactement. Et voilà comment ne pas tomber amoureux de ces terroirs gorgés de soleil toute l'année. C'est juste des lieux magnifiques, quoi.
Bah quand on est un Colombien expatrié dans des pays pas toujours très chauds, ça fait du bien certainement de redescendre un peu au sud de l'Europe, non?
Bah ça fait du bien, et en plus il faut, pour ceux qui connaissent la Grèce et qui connaissent pas la Colombie, je vous invite à vraiment y aller, parce qu'on a une ressemblance au niveau de l'accueil. On est des peuples qui sont très accueillants, et je me suis senti un peu chez moi, en fait, en Grèce. C'est aussi ça qui m'a charmé.
Ouais.
C'est cet accueil, cette chaleur. C'est même si s'il y a pas grand chose à manger, c'est pas grave. On peut être 4, même 5 et même 6. C'est ce partage à table, c'est tout mettre au milieu et se régaler sans limite. C'est une table où on mange un petit peu trop, on boit un petit peu trop et on régale beaucoup
trop.
Ah
ouais, ça fait du bien ça. Merci Juan Arbeláez d'avoir été avec nous. J'entends bien que vous êtes sur le bord de la route, vous êtes en train de faire du stop pour retourner en Grèce, c'est ça?
Ouais, là je suis en direction Kalamata, ça me manque trop.
Merci de ce beau témoignage et à très vite, on se retrouvera ici, Place du Marché. Alors, c'est beau d'avoir quand même un témoignage d'un chef dont ce n'est pas du tout la culture. Andreas, ça fait plaisir à entendre.
Oui, bien sûr, ça fait plaisir, parce que tous ceux qui vont en Grèce, ils voient ces constats de convivialité, de partage, d'amitié, les gens qui se trouvent entre eux. Je dis parfois, il y a un bonheur qui se trouve en Grèce, c'est la culture musicale, parce que la danse, la musique et la bouffe. C'est ce qui a sauvé beaucoup de Grecs de la détresse et de la déprime. C'est ces trois choses, c'est la culture musicale, parce que c'est énorme, ça fait partie de l'identité grecque, la musique. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans la tristesse, dans le bonheur...
Musique et danse.
la musique et la danse. Quand vous voyez quelqu'un, un vieil de 80 ans, qui peut danser avec un gamin de 5 ans, qui n'ont pas les mêmes expériences vécues, évidemment, mais qui partagent la même chose quelque part, à un moment donné, la musique, la danse, la cuisine. Voilà, ces trois choses qu'on partage, et c'est énorme pour la, et la convivialité à table, et qu'on partage tout, comme on a, comme l'a dit Joanne, qu'on a, si on n'a pas quelque chose, on les partage.
Et alors, même si on cuisine pas génialement, vous, votre boulot, Angelos, c'est de, d'apporter des bons produits à déguster simplement. Qu'est-ce que c'est votre, vos best-of chez Profil Grec? Qu'est-ce qui se vend le mieux de grec en
c'est,
France?
C'est l'huile d'olive, devant tout.
Oui, oui.
Mais après, c'est la feta. C'est la feta de M. Memos. Je pense que j'ai le droit de l'appeler feta, parce que c'est comme ça que la
commercialise,
on l'achète. Ça vient du nord de Messinia, d'un village qui s'appelle Kopanaki.
Alors on va pas recommencer 40, sur la...
À 40 kilomètres de...
À mon avis, s'il l'appelle, c'est qu'il a le droit de l'appeler. Hein.
Bien sûr.
C'est ça.
J'ai pas de problème.
C'est pour ça que je vous dis que peut-être au niveau spécialisation,
c'est une garasse à Munich. Je connais la région, peut-être qu'il fait partie de la région. Hein.
Peut-être.
Donc huile d'olive, feta, c'est déjà un bon démarrage. Parce que simplement un morceau de feta avec du pain et de l'huile d'olive, ça y est, on a déjà fait le déjeuner
et
pratiquement.
Avec de l'origan sauvage.
Oui, un peu d'origan.
De la montagne de Taïjet à côté de chez nous.
Ah oui, parce qu'il y a un origan spécial chez vous.
Oui, parce que si vous voulez, moi je viens aussi, j'ai grandi, je suis né à Kalamata.
Ouais.
Et donc, dans la région, et, notre fierté, c'est la montagne à côté, ça s'appelle la montagne de Taïjet. Mm-hmm. Taïetos, et elle est très connue en Grèce, très réputée pour ses herbes.
Et il y a un origan sauvage extraordinaire.
Exact. Et le thym.
Parce que moi, j'ai un origan grec et j'ai chez moi un origan sicilien, parce qu'ils ont de très beaux origans aussi. Ce ne sont pas les mêmes d'ailleurs. C'est extraordinaire à quel point les origans, il y a des dizaines d'arômes, plus ou moins mentholés, plus ou moins poivrés. Et c'est très intéressant. Et notamment. Lorsqu'on mange ces petites brochettes, là, ces souvlaki, dans un petit pain grillé, et qu'on peut avoir soit de la sarriette, soit de l'origan dessus, c'est ce qui va changer le goût de la viande.
Exact.
Vous vendez vos herbes, vous aussi?
Exact, des herbes. Après, on a aussi des magnifiques miels. On travaille avec deux apiculteurs, toujours dans le Péloponnèse. Mm-hmm. Un qui est un peu plus proche de Kalamata, un autre qui est un peu plus loin, côté de l'Épidore, de l'ancien... théâtre. Et après, on a aussi de la poutargue magnifique de la...
Et puis,
les Entrecalinos.
Est-ce que ça existe encore, le raisin de Corinthe?
Oui, ça existe
autour
toujours.
Autour de ce canal mythique?
Ça existe toujours. Ça a perdu son énorme poids dans le commerce extérieur grec.
Parce qu'on mange plus des sultanats maintenant, qui viennent des États-Unis ou
Plutôt de Turquie.
De Turquie aussi.
Mais le Corinthe, ça existe toujours. Et c'est aussi très très bon comme raisin.
Est-ce qu'on peut rendre à la Turquie, et non pas à la Turquie, Andreas, mais plutôt à l'Empire ottoman, on peut rendre quand même ce qui leur appartient, c'est-à-dire une certaine, un certain raffinement culinaire qui a gagné aussi un petit peu la Grèce. Par exemple, cette recette d'Imam Bayaldi, qui est en fait tomate, aubergine, etc., ça a voyagé entre les deux côtés du Bosphore.
Vous savez, alors, on va pas...
Non, mais je vous demande pas de faire allégeance.
Ça travaille d'historien. Ce que je veux dire, tout simplement, n'oubliez pas que la Grèce est restée 4 siècles occupée par les Turcs. Et certains noms de produits...
Par les Ottomans, hein.
Par les Ottomans.
À l'époque, hein.
Par les Ottomans, mais je dis, ces raffinements-là, surtout, ça vient... qu'est-ce que c'était la Turquie à l'époque? Il faut remonter un peu à l'histoire. C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose, la Turquie, à l'époque. Hein. Mmh. 4 siècles d'occupation ottomane. Donc, les Turcs, ils ont pris par les Grecs suffisamment. Il y avait peut-être des échanges. Évidemment, il y a des échanges.
Surtout culinaires, parce qu'évidemment, ça reste
mais
là où
on s'en... Il y a quelques noms, par exemple, en dolma, ça vient du nom grec.
Exact.
Du nom turc. Mais turc, ouais. Ça pas, toutes les recettes, tout ça vient de la Ziminaire. Vous savez, la Ziminaire, qui était en 1920, 1921, qui a été la catastrophe de la Ziminaire. D'ailleurs, c'est la... avec la chute de Constantinople, c'est la chute de l'Occident pour moi. C'est des dates historiques. 29 mai 1453, la chute de Constantinople et la chute de la catastrophe de la Ziminaire, c'est des dates noires de l'Europe. Ça, il faut les comprendre.
Oui, oui, bien sûr.
Il faut quand même aller étudier un bel histoire.
Mais moi, ce qui est plutôt l'influence culinaire qui m'intéresse. Je suis désolé de vous ramener à nos préoccupations, Andreas.
Oui, Vincent, on ne peut pas séparer tout ça. J'ai dit 4 siècles d'occupation ottomane. J'ai dit,
il y a des échanges.
Il y a des échanges énormes. Mais j'ai dit aujourd'hui, Imam Bayaldi, ça veut dire quoi? Que l'imam s'évanouit.
en goûtant.
Mais qui a fait la cuisine? C'est un Grec qui a fait la cuisine.
Ah, voilà, j'en étais sûr qu'il a l'air de faire ça. Il s'est évanoui devant la cuisine des Grecs, comme on doit le faire dans votre restaurant.
L'imam s'évanouit, c'est ce que ça veut dire.
Oui, absolument.
Oui, j'ai lu un article récemment, et il y a de la recherche active actuellement là-dessus, et on essaye de comprendre si c'était de la cuisine byzantine devenue ottomane qui est après retournée vers nous en recette, ou c'était des influences, toujours un mélange, et
on ne peut pas dissocier
à la fin qui a fait qui, quoi.
Ouais, voilà,
on ne sait pas trop encore.
On ne sait pas qui a envahi qui, en fait. Hein.
Non, on sait qui a envahi.
Pas sur le plan culturel.
Pas ça, on sait qui a envahi.
Oui, Andreas, je ne me battrai pas sur ce sujet.
Mais tu ne veux pas débattre, c'est normal. Demande les historiens.
C'est l'histoire. Oui. Aujourd'hui, sur le plan culinaire, si on goûte les produits grecs, on s'aperçoit que ça n'a pas tellement changé depuis 2500 ans. Hein, on est quand même dans les mêmes produits, l'huile d'olive, le vin, l'olive, bien sûr, certains fromages comme la feta, mais il y a beaucoup d'autres fromages également.
Exact.
On peut dire, moi, il y a une chose qui m'étonne. Moi, je mange toujours du poulpe parce que j'aime bien ça, et c'est vraiment, je pense là vraiment les Grecs qui ont été les promoteurs de cette chair animale extraordinaire quand elle est bien traitée, bien entendu. Pas beaucoup de poissons quand même, hein. Pas beaucoup de poissons qui viennent jusqu'à chez nous. Les marins grecs n'ont pas appris à conserver au sel, ou pourtant ils avaient le sel et le poisson. Enfin,
Si, par exemple, l'île de Lesbos, ils sont vraiment sur les sardines, les anchois.
Et pourquoi on les connaît pas? Parce que c'est des petites productions qui ne sont pas venues jusque chez nous.
Parce qu'on les connaît pas. C'est vrai que les champions de la conserve, c'est pas les Grecs là-dessus. C'est peut-être les Espagnols, les Italiens, mais franchement, j'ai dit, on a beaucoup de conserves en Grèce, surtout on a beaucoup de recettes de poissons, énormément de recettes. Et les poulpes, mais nous sommes des champions.
Champions du monde du poulpe.
C'est la préparation champion. Du poulpe.
Comment ça s'appelle un poulpe, la pieuvre en grec?
Octapodi, c'est-à-dire huit pattes.
Ah oui.
Octapodi.
Un octopode.
Octopus.
Octopus, exactement. Octopus. Oh, c'est merveilleux. J'adore voyager avec les Grecs en Grèce, surtout quand on parle des bonnes choses. Merci beaucoup, messieurs. Et je rappelle que dimanche prochain, le 9, c'est le banquet grec au parc du Buttes-Chaumont à Paris.
Avec, juste de vous dire, en partenariat avec le pavillon du lac.
C'est le pavillon du lac qui nous recevra.
Exactement.
J'irai faire un tour avec mes amis grecs. Merci Andreas Mavromatis. On viendra goûter votre cuisine un petit peu plus créative, bien sûr. La semaine prochaine, venez faire votre marché avec nous sur Sud Radio. On retrouve une actu bien gourmande, notamment et le très couru championnat du monde de l'œuf maillot. Oui, c'est sérieux. Wow. Les jeunes talents du champagne, il y avait pas mal aussi, et plein de bonnes choses dans notre grand panier. Alors, j'ai envie de dire yassas à tous, hein, c'est yassas. Un salut général, et on se retrouve dimanche prochain, merci.
Yassas.
Yassas. Yassas.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.